ce matin. Alors pourquoi parler de Soukhot, qui est une fête? Tout le monde pense que c'est une fête juive. Alors on va voir que ce n'est pas que ça, que c'est bien plus que ça, et qu'elle nous concerne. Un pasteur bien connu pour sa connaissance d'Israël regrettait que les chrétiens fêtent Pâques et Pentecôte et pas Soukhot. Parce que c'est les trois fêtes qui finalement s'étaient obligées d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem. Donc on va voir ensemble ce que nous sommes concernés. Qui a écouté l'émission dimanche dernier sur Soukhot, sur RCF? Jamais vous n'écoutez les émissions RCF. Bon, donc ce que je vais vous dire, vous l'avez peut-être pas entendu. Je fais une parenthèse parce que je suis toujours émerveillée de voir que dans la parole, il y a des événements comme ça qui ont lieu au début de la Bible et à la fin. Je fais cette parenthèse en parlant par exemple du lion de Juda. On parlait de ça à la maison de prière il y a une ou deux semaines. Le lion de Juda qui rugit, vous entendez le son du lion de Juda qui rugit, qui revient bientôt. Et le premier texte qu'on trouve sur le lion de Juda, c'est dans Genèse 49, quand Jacob prophétise sur chacun de ses fils, et il dit à Juda, il l'appelle Juda le jeune lion. Et puis, on retrouve, j'ai trouvé que deux textes. Si vous en trouvez un autre, vous me le direz. Hein, mais j'ai trouvé que ces deux textes. Le dernier texte, c'est dans Apocalypse 5, 5, quand Jean, dans une vision, pleure parce qu'il voit que personne ne peut ouvrir les sept sceaux. Et l'ange lui dit, ne crains pas, le lion de la tribu de Juda a été trouvé fidèle pour ouvrir. C'est pas exactement ça, mais vous lirez. Apocalypse 5, 5. Et c'est un peu comme ça pour Soukhot, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc Soukhot pour votre... J'ai pas fait de PowerPoint, vous n'aurez que deux ou trois diapos seulement à la fin. Si vous voulez savoir, et ben vous prenez des notes. Hein. Donc c'est l'une des trois fêtes pour lesquelles il fallait absolument que le peuple fasse un pèlerinage à Jérusalem. Alors cette fête comporte plusieurs éléments. Le premier qui lui a donné son nom, c'est Soukhot. Alors Soukhot, on l'appelle aussi la fête des tentes, la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Tabernacle, pourquoi? Parce que dans le désert, ils étaient sous des tentes, et le tabernacle, c'était aussi une tente. Hein, c'était une grande soukha. Donc, soit dit en passant, c'est Dieu qui a choisi la date de ces fêtes. C'est Dieu qui a dit à telle époque, tu fêteras cette fête. Et on trouve d'ailleurs le premier texte, donc c'est dans Exode 34, 22, quand Dieu dit à Moïse, donne à Moïse toutes les lois, toutes les règles. Et dans Exode 34, 22, si vous voulez prendre des notes, il dit, tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé, c'est Pentecôte, et la fête de la récolte à la fin de l'année, Soukhot. Alors le texte est plus détaillé dans le Lévitique 23, verset 39. Le 15e jour du 7e mois, le mois de Tikri, quand vous récolterez les produits du pays, le premier jour, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le huitième, parce qu'il y a un huitième quand même, le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome, il y a encore d'autres choses qui sont rajoutées. Chapitre 16, verset 14. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, c'est nous, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Donc c'est une fête par excellence, durant laquelle le peuple déménage sous des tentes. Voilà, ça c'est un modèle de tente. Déménage sous des tentes pour se rappeler le souvenir de l'errance de leurs ancêtres dans le désert pendant 40 ans. Et de se rappeler aussi ce que Dieu a fait pendant ces 40 ans. Alors c'est vrai qu'arrivé en Canaan, le peuple s'est installé, ils ont construit des maisons dures, etc. etc. Ils ont commencé à oublier peut-être ce qu'ils avaient vécu dans le désert. Et donc cette prescription que Dieu leur donne d'habiter dans des tentes, c'est pour leur rappeler de vivre quelque chose de simple, l'occasion de retrouver une vie simple et le contact avec Dieu, de se rendre compte de la précarité de la vie, des futilités, de tout ce qui est vain, et de reconnaître que tout vient de Dieu et le remercier. Donc à cette époque, et aujourd'hui encore en Israël, surtout en Israël, je ne suis pas sûre qu'en France ou dans d'autres pays on le fasse beaucoup, mais en tout cas en Israël, ça se fait toujours, chacun construit une souka sur le toit de la maison, parce qu'ils ont souvent des toits plats, sur la terrasse ou dans le jardin. En principe, faites avec des branches. Ils mangent et vivent dedans pendant 7 jours. Et durant ces 7 jours aussi, le peuple offrait des sacrifices dont vous pouvez lire le détail dans Nombre 29. Et le premier jour et le huitième, il y avait une assemblée solennelle. Tout le monde se rassemblait pour honorer Dieu. Donc, ce premier élément de la fête de Soukhot, c'est ça, c'est d'abord le souvenir des 40 ans dans le désert. Le deuxième élément de cette fête, c'est l'époque des récoltes de l'année. Alors, elle est célébrée avec 4 espèces. On a lu tout à l'heure dans le Lévitique des branches de palmier, de saule, d'arbres touffus, le myrte. J'ai pas fait de détails sur toutes ces branches, mais le myrte, c'était un arbuste. Si on le brûlait en terre, hein, si on le brûlait, il repoussait toujours. Donc beaucoup de fruits, il y en a pas mal qui sont là, il y en a peut-être pas qui poussaient en Israël, mais en tout cas il y en a pas mal. ces fruits étaient représentés par ce qu'on appelle le cédra ou l'étrog. Alors ça ressemblait à un citron, j'avais mis un citron un peu bizarre là. Voilà, un citron un petit peu boursouflé, enfin un gros truc comme ça. Ça s'appelait le cédra ou l'étrog. Donc tous les fruits étaient représentés par cette sorte de citron. Et l'ensemble de tous ces 4 éléments s'appelle loulave. Et chaque espèce a une signification, donc. On peut lire si on fait un bond en avant, dans Néhémie, ça fait une dizaine de siècles plus tard, le peuple avait été emmené en exil par Nabucodonosor. Et quand ils sont rentrés dans le pays, Néhémie leur demande, dans le chapitre 8, verset 15, « Allez chercher à la montagne des branches d'olivier sauvage, de myrte, de palmier, d'arbres touffus, pour faire des cabanes conformément à ce qui est écrit. Et toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Noun. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. » Donc, ce deuxième élément, c'est l'époque des récoltes. On récolte la vigne, la figue, la datte, enfin tout ce qui poussait là-bas en Israël. Le troisième élément qui est aussi important, c'est la saison des pluies. C'est l'automne, il y a eu les récoltes, et maintenant le peuple s'attend à recevoir la pluie pour les prochaines semailles. C'est une fête, donc aussi une fête agricole. Et le septième jour, s'appelait Hoshana Rabba, le peuple se rendait au temple vêtu de blanc, c'est pour ça que j'ai mis du blanc, et en chantant « Hosanna, sauve-nous, ô Dieu ». D'ailleurs, « Hosanna », ça veut dire « sauve-nous ». On a l'impression que « Hosanna », c'est « wow, wow, wow ». Non, non, ça veut dire « sauve-nous ». Donc « Hosanna, sauve-nous, ô Dieu ». Et à cette occasion, quand il y avait le temple, il y avait la cérémonie du puisage. Si la pluie n'était pas encore venue, le grand prêtre descendait à la source du Guillon. Il puise de l'eau dans une cruche et puis, accompagné par le peuple, il remonte au temple en citant Ésaïe 12. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et l'eau était répandue devant l'autel avec une prière pour la pluie. Donc c'était un déferlement de joie. Voilà l'importance de la pluie aussi en Israël, surtout. Hein. En Israël, on dit toujours que la pluie est une bénédiction. Chez nous, on ne le dit pas toujours, mais quand on en a trop. Mais là-bas, comme ils n'en ont pas beaucoup, la pluie est une bénédiction. Et le quatrième élément de cette fête, c'est concerne la Torah. Alors la fête dure 8 jours, finalement. Et il y a une relation entre avec la Torah, qui est lue pendant l'année et qui s'achève ce jour à Soukhot. Ils font un cycle de lecture. Alors la Torah, ça commence à la Genèse et ça finit Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, non, Deutéronome, les 5 livres. Donc ils faisaient ça chaque année. C'est divisé en autant de sections que de semaines. Et cette lecture hebdomadaire est faite à la synagogue actuellement. Donc Soukhot, c'est la période qui marque la fin de cette lecture, mais qui recommence immédiatement, au début. Et le mot Torah et le mot pluie ont la même racine en hébreu, moré, qui veut dire aussi enseignant. D'ailleurs, Moïse, dans Deutéronome 32:2, compare la parole de Dieu avec la pluie. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme la pluie, des gouttes d'eau sur l'herbe. Et on trouve la même relation dans Ésaïe 55:10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ce jour-là porte aussi le nom de Simnat Torah, la joie de la Torah. Et donc on bénit Dieu pour ce don aussi de la Torah, de la parole qui est semblable à la pluie, une bénédiction, à l'eau bienfaisante. Et chaque juif, ça se fait peut-être pas partout, hein, mais chaque juif prenait la Torah dans ses bras et sortait de la synagogue en dansant et en bénissant Dieu pour ses richesses. Vous sortez comme ça avec votre Bible. Hein. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà donc les quatre éléments de cette fête. Donc la souka, la fête des récoltes, la saison des pluies et la Torah. Donc, souka nous concerne aussi. Excusez-moi, j'ai soif. On va faire un premier lien d'abord avec le temple de Salomon, qui lui a inauguré le temple aussi à la fête de Soukhot. On peut lire ça dans 2 Chroniques chapitre 7. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui et une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais on peut dire que le temple, c'était le lieu de rassemblement du peuple, et le temple de Salomon aussi préfigure le temple céleste. J'avais fait un enseignement sur ce temple il y a quelques années. On peut faire aussi le lien avec nos communautés, qui sont des lieux de rassemblement où nous pouvons nous réjouir ensemble. Mais aussi, le temple de Salomon préfigure et représente le temple céleste, que vous pouvez découvrir dans Apocalypse. Donc Soukhot, c'est une fête messianique par excellence, et c'est pour ça qu'on doit la fêter. Le premier point, vivre sous une tente, nous parle de ne pas nous attacher aux choses de la terre. Nous sommes étrangers sur cette terre. C'est ce que dit David dans 1 Chronique 29, 15. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Mais Pierre nous dit aussi dans 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui fait la guerre à l'âme. Le deuxième point, on peut dire que c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu, et ça, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être évident pour nous et courant. On a vu que le peuple se rendait au temple vêtu de blanc, en agitant le loulav et en criant « Hosanna, sauve-nous ». Et c'est le même rite, qui s'est passé quand Jésus est entré dans Jérusalem, monté sur l'Anon. Dans Jean 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, alors là c'était la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Le pasteur Jean-Marc Taubois nous dit que ce jour des rameaux était une anticipation de Soukhot, notamment de la dernière fête quand le Messie viendra. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit aussi nous concerne. Le point 3, la saison des pluies. Oui, je voulais juste dire que Jésus s'était bien identifié aussi à cette fête. Et que les gens avaient, prophétiquement, avaient crié « Hosanna » en étendant des branches de palmiers. Le point 3, la saison des pluies et la cérémonie du puisage. Le peuple attend et prie pour la pluie. Et il y a cette cérémonie du puisage par le prêtre. Et Jésus a fêté Soukhot. Il était à Jérusalem et il s'est identifié à cette fête. Et peut-être même qu'il a assisté à la cérémonie du puisage. Il apporte une dimension nouvelle, spirituelle, à cette fête que le peuple n'a pas forcément compris à cette époque-là. Dans Jean 7, donc, ce jour-là, pendant la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Jésus annonce prophétiquement que c'est lui la source et il invite le peuple à venir à lui. Il y a une coutume aussi qui raconte que lors de cette fête de Soukhot, les femmes de Jérusalem et celles qui étaient venues en pèlerinage apportaient chacune une petite lampe à huile que l'on suspendait sur les façades du temple, et il y avait ainsi des centaines et des centaines de petites lumières qui faisaient que le temple se voyait à des kilomètres. Et Jésus saisit encore l'occasion pour s'approprier cette fête. Dans Jean 8, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans le judaïsme, d'ailleurs, un des noms du Messie est Néhara, qui veut dire « lampe », dans le psaume 132. Alors, est-ce que nous sommes des lumières visibles qui montreront la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres? Alors, le point 4. Je ne vais pas m'allonger, mais le point 4 nous parle de la Torah, de la parole qui s'accomplit en Jésus aussi. Dans Ésaïe 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. » Donc, le fait de parler de la Torah, ça nous parle aussi à nous, de la parole qui doit avoir cette importance dans notre vie. Nous devons l'aimer et la lire. Alors, on va passer à un autre détail. Soukhot, c'est la fête des nations. On a vu comment cette fête, elle est messianique, qu'elle nous parle de Jésus, du Messie, mais elle concerne aussi les nations, à la fin des temps. Elle concerne les païens, tous les peuples. Le passage important qui en parle, c'est Zacharie 14, 16. « Tous les survivants, de toutes les nations, venus attaquer Jérusalem, y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes, Soukhot. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Peut-être qu'on devrait y réfléchir aussi en ce moment de ces temps de sécheresse. Il y a une relation encore avec la pluie. Et là, bien sûr, Zacharie prophétise sur la fin des temps. Ça aura lieu, bien sûr, dans les temps messianiques, le temps où Israël et les nations seront enfin unis dans la connaissance du Messie. Et le pèlerinage des nations et d'Israël se fera à Jérusalem lors de Soukhot, à la fin des temps. Alors c'est intéressant de noter que depuis pas mal d'années, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens vont fêter Soukhot à Jérusalem pour anticiper cette réalisation, ce temps messianique, et puis pour prier pour le peuple d'Israël. Donc il y a en ce moment... Beaucoup, si vous connaissez Machol dans Chez la vie, si vous connaissez, enfin, il y a plein de chrétiens qui sont en ce moment à Jérusalem et qui fêtent Soukhot. Et donc, je vais vous lire un dernier texte dans Apocalypse 7 pour vous montrer que ça va bien jusqu'au bout. Après cela, Apocalypse 7, verset 9, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'ils ne disent plus « Sauve-nous », mais ils ont compris « Le salut est à notre Dieu ». Et si on décortique certains textes de l'Apocalypse, on y trouve beaucoup d'éléments de la fête de Soukhot, mais en mieux. Vêtus de blanc, des palmes à la main, donc ils ne disent plus « Sauve-nous, mais le salut est à notre Dieu ». Et dans les derniers chapitres, 21-22, on parle de l'eau, le fleuve qui jaillit du trône de Dieu, qui arrose l'arbre de vie, qui produit chaque mois un fruit différent. Plus besoin de lampe, car c'est Dieu qui éclaire un jardin d'Éden céleste. Une fête de Soukhot céleste. À mon avis, hein, mais c'est ce que je pense, on ne fêtera plus Pâques, ni Pentecôte au ciel, mais on fêtera Soukhot. C'est l'aboutissement du projet de Dieu pour le monde. Soukhot, fête messianique par excellence, fête messianique en puissance. Vous vous réjouissez de ça? Donc je voudrais juste, si tu peux passer la prochaine diapo, faire un petit résumé de ce que je vous ai enseigné ce matin. Se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé et ne pas nous attacher aux choses terrestres. Se réjouir des bienfaits que Dieu nous accorde et accueillir Jésus. Appeler la pluie celle de l'arrière-saison, dont Jésus est la source. Alors quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, c'est aussi une pluie spirituelle. Et ça, il faut vraiment prier pour que cette pluie spirituelle, comme le disent certains textes de la parole, le réveil de notre peuple, le réveil de notre nation, que cette pluie vienne sur nous. Donc remercier et aimer pour la parole, et puis être attentif aux signes et aux prophéties bibliques, et ne rien négliger de sa parole. Je voudrais terminer par un dernier verset, Osée 6,3, que vous connaissez bien. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que nous puissions fêter Soukhot. Et moi, ça me réjouit. Simplement de faire cette petite étude, ça m'apporte de la joie parce que Dieu a préparé quelque chose pour nous là-haut, de merveilleux. D'ailleurs, il y a un festin aussi qui est prévu. Il y aura certainement encore beaucoup plus de choses que ça. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à aussi nous voir que sa parole est vraiment, vraiment certaine, que tout ce qu'il dit se réalise. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux, on l'a chanté ce matin. Tu es un grand Dieu. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux nous faire connaître davantage et nous voulons, comme le dit ce verset, cherchons à connaître. Cherchons à connaître toujours mieux ta parole, à nous attacher à ta parole, Seigneur, à ne pas laisser de côté, mais Seigneur, à aimer cette parole comme les Juifs le font en la serrant dans leurs bras. Seigneur, viens changer nos cœurs et nos vies pour que nous puissions vraiment grandir dans ta connaissance. Amen.